Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse une fois de plus à l'Afrique à travers la lecture du rapport de la CNUSED sur le développement économique du continent en plaidant pour le renforcement du commerce intra-régional. Le rapport 2013 sur le développement économique en Afrique a donc été rendu public le 11 juillet dernier à Genève. Il s'intitule « Commerce intra-africain, libérer le dynamisme du secteur privé ». Il a été publié par la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a tendu son micro à Patrick Porte, expert en charge de l'Afrique à la CNUSED.
La CNUSED propose, sur la base du constat qui est fait dans le rapport cette année donc sur le commerce interrégional africain, d'intégrer à la démarche de développement, c'est-à-dire d'amélioration des conditions de réalisation du commerce intra-africain, trois niveaux d'intervention. Le premier, traiter et faciliter le commerce sur le continent, à savoir lever les obstacles, traiter les arrangements tarifaires et non tarifaires dans la région. Mais également, donc la CNUSED a constaté sur la base des résultats de cette analyse qui a été faite cette année, que c'était une condition essentielle, mais insuffisante, si on considère les caractéristiques du commerce dans la zone africaine et également la situation des entreprises en Afrique, donc des opérateurs économiques qui interviennent sur ce champ. Il est indispensable de traiter la problématique du commerce intra-africain sur ces trois niveaux, sans en négliger aucun, et de les traiter de manière équilibrée. Il faut certes donc s'occuper des arrangements commerciaux, des accords commerciaux dans la région, mais également renforcer les capacités productives, remettre le secteur privé au cœur des politiques que les pouvoirs publics, donc qui ont été très longtemps leaders sur cette problématique du commerce intra-africain, qu'ils remettent dans le cadre d'un dialogue concerté avec le secteur public, donc ces opérateurs économiques, au cœur de la problématique, de manière à avancer de manière positive.
Mais justement, à combien s'élève ce commerce intra-régional africain ?
Aujourd'hui, la part du commerce intra-africain dans le commerce africain, au total, correspond à 11% des échanges donc qui sont faits. Alors, commerce intra-africain, un pays africain exporte vers un autre pays africain. Donc, c'est une part qui est considérée comme très insuffisante, surtout si on la compare à ce qui se fait dans d'autres régions comparables en développement, où on atteint 25% en Asie, 21% dans la zone Amérique latine, Caraïbes, et hors pays en développement, le commerce intra-zone, donc pour la région européenne, est de 70%. Donc la marge de progression pour le commerce intra-africain est très importante. C'est une à la fois une cause de satisfaction, de considérer qu'il y a des pistes de progrès possibles, et en même temps une inquiétude, puisque depuis les indépendances, les gouvernants africains ne sont pas arrivés à constituer une part du commerce intra-africain suffisamment critique pour assurer une croissance importante pour le continent.
Ce n'est pas parce que aujourd'hui, à ce stade de la situation économique en Afrique, ce sont les entreprises étrangères qui comblent ce vide, parce que de plus en plus, on parle de Chine-Afrique, on parle de France-Afrique. Et c'est pas ça qui comble le vide.
France-Afrique, ça fait longtemps qu'on en parle. Chine-Afrique, c'est plus récent. Mais les entreprises intra-africaines ont un rôle important à jouer dans ce type de commerce. Les entreprises étrangères sont positionnées sur le commerce classique, c'est-à-dire à travers les accords de partenariat qu'elles ont avec l'Afrique, avec soit des gouvernants, soit des entreprises ou des filiales, elles n'interviennent pas sur le même niveau de commerce intra-africain. Donc les entreprises étrangères sont peu positionnées sur ce segment du commerce, mais effectivement, si les entreprises africaines ne remplissent pas ce rôle au niveau de l'échange, la nature ayant horreur du vide, il sera comblé forcément par les entreprises étrangères. Il y a également un aspect important de ces échanges transfrontaliers intra-régionaux, c'est le commerce informel. Le commerce informel est très important en Afrique et il est également important en termes de commerce intra-africain. Donc, il faut considérer que le commerce intra-africain, par rapport au commerce total africain, est estimé à 20% à peu près. Donc, on se rapproche du niveau de l'Amérique latine et des Caraïbes. Mais on constate aussi que les pays pétroliers sont ceux qui échangent le moins en termes de commerce intra-africain. Les produits agricoles également, c'est un autre aspect problématique, puisque l'Afrique possède les superficies en terre arable les plus importantes du monde, mais n'échange que 17% en intra-africain pour les produits alimentaires et les animaux vivants. Donc la marge est énorme, c'est 83% qui peuvent être comblés par l'Afrique seulement. Par exemple, dans le bloc régional de la CEAC, on constate que 20% seulement des pays commercent à l'intérieur du bloc et n'échangent qu'à hauteur de 17% pour le pétrole dans la zone intra-africaine. Donc ça s'explique évidemment par l'insuffisance d'infrastructures pour traiter par exemple le pétrole, pour le raffiner, pour le distribuer. Également, ça révèle tous les problèmes de transport, d'infrastructures régionales, etc.
Très brièvement, le rapport s'intitule « Commerce intra-africain, libérer le dynamisme du secteur privé ». Au niveau de la CNESET, quels sont les obstacles que vous avez notés et comment les éliminer pour encourager surtout l'entrepreneuriat privé ?
À la fois que les gouvernants qui ont défini ces blocs économiques régionaux s'attachent à appliquer les accords commerciaux qui les régulent. Aujourd'hui, on constate que 20 ans après, par exemple, la mise en place de certains blocs économiques régionaux, les accords ne sont toujours pas engagés. La CEDEAO est aujourd'hui le bloc économique qui est le plus avancé en termes de traitement justement du commerce régional. Donc ça, c'est un aspect institutionnel qui appartient au pouvoir public, qui est très important. Autre aspect, c'est donc des politiques industrielles locales. On n'a pas évoqué le problème des produits manufacturés, pour lesquels il existe une marge de croissance très importante en termes d'échanges. Et également que les pouvoirs publics aient cette démarche que recommande la CNUSED depuis 2010, depuis son rapport sur la nouvelle architecture du développement international, à savoir l'approche développement intégré.
Et c'est une façon pour la CNUSED de rappeler qu'il y a des secteurs inexploités qui peuvent être des débouchés en Afrique.
Oui, tout à fait. Il existe donc pour les produits manufacturiers, pour les produits pétroliers et surtout pour les produits agricoles, des pistes de progrès en termes de valorisation de l'échange qui sont très importants. On est aujourd'hui dans un échange marginal considérant ces produits. Les produits manufacturiers, là, il y a une autre inquiétude, c'est qu'ils baissent, donc ils sont le plus commercés dans la zone intra-africaine, mais on constate que depuis les 5 dernières années, on est passé donc de 53 à 46% aujourd'hui en termes d'échanges de produits manufacturés, ce qui révèle en creux la désindustrialisation du continent. Donc il est important que l'investissement direct étranger, que l'IDE intra-africain augmente. Juste peut-être un mot sur cet aspect qui est très important pour le futur, c'est que l'Afrique du Sud aujourd'hui est le cinquième investisseur en Afrique. Cinquième investisseur de tous les investisseurs du monde. Et l'Afrique du Sud se positionne devant la Chine. On parle beaucoup de la Chine en Afrique, mais l'Afrique du Sud reste à une place devant. La Chine est sixième investisseur, l'Afrique du Sud le cinquième. Et l'Afrique du Sud, par contre, est le seul pays africain parmi les 20 premiers investisseurs en Afrique. Donc la croissance de l'IDE en Afrique est importante en intra-africain. 46 milliards de dollars aujourd'hui. Et surtout, l'IDE finance le secteur des services.
Mais comment faire si l'on sait que quand même les tailles de ces PME en Afrique sont très petites comparées à certains pays asiatiques, mais aussi surtout de la prédominance du secteur informel dans le continent?
Alors, il appartient au pouvoir public africain de structurer le secteur informel. Donc pour ça, il faut offrir des services à ces entreprises. Concernant la taille de l'entreprise en Afrique, effectivement, l'Afrique est confrontée, c'est la taille réduite des entreprises du secteur formel en Afrique, avec des disparités de taille très importantes. L'entreprise africaine a en moyenne 47 employés, la chinoise en a 1000 pour des activités comparables. Donc on est effectivement sur des tailles insuffisamment critiques pour porter des projets d'investissement direct étranger ou envisager un développement efficace dans la sous-région.
Et autre obstacle soulevé par le rapport, c'est les coûts de transport de marchandises parmi les plus élevés au monde. En quoi c'est un parcours de combattant de transporter, par exemple, une tonne de marchandises entre Douala au Cameroun et N'Djamena au Tchad qui revient à 0,11$ le kilomètre, soit deux fois plus qu'en Europe occidentale? Est-ce juste la faillite d'un système où, pendant longtemps, on a négligé les infrastructures sur le continent?
Alors, les infrastructures, et c'est notamment, vous faites référence aux aménagements routiers, sont très coûteux. Les États n'ont pas forcément eu la capacité, les dernières années, de financer de tels investissements. Donc aujourd'hui, c'est avec l'appui de l'Union européenne, qui est le bailleur le plus engagé dans le financement des infrastructures en Afrique, les choses changent peu à peu, les coûts de transport diminuent. Effectivement, on voit que sur le parcours kilométrique tchadien, on est sur des coûts absolument contraignants pour le dynamisme du commerce, d'où, encore une fois, la nécessité pour les pays membres de ces blocs économiques régionaux de travailler de manière consensuelle. Et surtout, c'est la condition essentielle, la paix et la sécurité sont les deux conditions absolument essentielles pour que ces initiatives soient positives dans le court, moyen et long terme.
Sur ce point exact, vous avez soulevé le cas de la Côte d'Ivoire où le conflit civil dans ces pays a réduit le commerce intracommunautaire au sein de l'IMOA d'environ 60% entre 1999 et 2007. Ça montre aussi le problème de l'instabilité en Afrique.
Quand on constate le coût, l'impact des guerres, des conflits, des crises dans les pays africains, on constate la faible résilience, donc la faible capacité de reprise dans le court terme. Évidemment, il n'y a pas de plan Marshall, donc les pays africains sont confrontés à des difficultés où ils doivent trouver les ressources propres, internes. Les bailleurs sont moins présents, avec une aide publique au développement qui stagne. Le cas de la Côte d'Ivoire est un cas d'école qui est bien étudié, puisqu'on constate que près de 10 ans après, en fait, les premiers troubles, le pays n'est pas revenu au niveau de performance économique qu'il avait à l'époque et le rôle de leader régional qu'il avait.
Comment alors passer d'une approche traditionnelle de l'intégration à ce que vous appelez régionalisme développementiste?
Donc effectivement, c'est une notion qui a été développée par la CNUSED, l'État développementiste. C'est l'État qui a bien compris que le développement passait par le traitement de plusieurs segments qui composent la problématique du développement. Donc on intervient sur l'investissement, sur les politiques sectorielles, sur les concertations entre acteurs économiques et les pouvoirs publics, la définition de politiques publiques favorables, incitatives. Donc c'est en fait une approche intégrée du développement pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les opérateurs ou l'État dans son rôle d'initiateur du développement. Donc c'est une approche intégrée.
Concrètement, ça passe par quoi ? C'est-à-dire,
par exemple, la création d'un ministère du développement. Malheureusement, c'est le pays qui arrive en 34e ou 40e position dans la hiérarchie des ministères. La CNUSED recommande que ce poste soit le premier poste sous la tutelle directe du président ou du premier ministre pour justement avoir cette capacité d'entraînement, de stimulation des autres ministères, des autres, justement, segments qui font que le développement ne peut pas être envisagé de manière isolée. Les leviers sont multiples.
Et en quoi cette nouvelle forme d'intégration développementiste va changer les donnes en Afrique, surtout ?
C'est de valoriser les ressources disponibles qui sont de plus en plus incertaines et de moins en moins importantes sur des leviers pour lesquels aujourd'hui on a un recul suffisant et une connaissance qui peut être immédiatement valorisée et jouée à plein, donc dans le cadre des recommandations que font les Nations Unies en général. La CNUSED en particulier, donc pour son mandat concernant le commerce et le développement, mais également les autres agences qui interviennent à d'autres niveaux, l'ONUD, etc.
Et y a-t-il des exemples en Afrique où cette coopération régionale a marché et aidé des pays africains à être plus compétitifs sur le plan international ?
On le voit aujourd'hui et on voit donc au sein de l'Union africaine où les recommandations des agences des Nations Unies sont le cadre de référence, comment dire, de transfert de ces recommandations qui sont prises en compte et de nombreux pays prennent aujourd'hui ces recommandations, donc parmi un portefeuille de recommandations, celles qui sont les plus adaptées à leur situation.
Et quelle entité régionale cadre le mieux avec vos préoccupations par rapport à ce que vous appelez régionalisme développementiste ?
La région africaine qui est la plus dynamique et la plus puissante, c'est la SADC, en termes de performance économique, de résultats et d'effet d'entraînement sur les autres. Donc ça entraîne la COMESA, ça entraîne la CAE, la Comité d'Afrique de l'Est, et d'autres blocs immédiatement proches. La CDAO, pour l'Afrique de l'Ouest, est un partenaire de référence pour les Nations Unies, puisque maintenant, cette organisation, au-delà du traitement des problématiques économiques, s'occupe aussi de problématiques, on l'a vu à l'occasion de la crise au Mali, de problématiques de sécurité et de paix dans la région. Donc on voit la maturité de ces blocs, et par contre, d'autres blocs qui sont plus stagnants ou qui sont moins impliqués dans le développement global de l'Afrique. Aujourd'hui, en Afrique, on a 54 pays, moins peuplés que l'Asie, avec autant de frontières. Et parfois, en passant d'un pays à l'autre qui n'est pas membre d'un même groupe régional, on se retrouve dans une législation du commerce qui est totalement différente. Donc, il est important qu'à terme, effectivement, on puisse arriver à ce bloc continental. Et on ne parlera plus de bloc économique régional, mais de bloc économique continental, à la manière de l'Union européenne aujourd'hui, par exemple, ou du Mercosur.
Voilà, et c'est avec Patrick Porte de la CNUSED qui répondait à Alpha Diallo que se referme ce magazine Escale. Escale, un magazine présenté cette semaine par Jérôme Longuet avec la complicité de Florence Westgaard. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.